Rituel au quotidien. Une émission dans la thématique Ma foi. Parfois solennels, le plus souvent banals, les rituels sont de petites vertus en paroles, actes ou pensées, des gestes quotidiens dans lesquels pourtant des mondes se croisent, l'ici et l'au-delà, et entament une modeste conversation. Rite de passage, rite de printemps, cette saison, quel mécanisme de la psyché ces rituels mettent-ils en œuvre ? C'est au travers du prisme de la psychologie que nous allons, à notre tour et à ce propos, entamer une modeste conversation avec Cécile Jouclard, psychanalyste, et Pierre Bengozy, psychiatre. Pierre Bengozy.
Le rite et le rituel, ça n'est rien d'autre qu'une modalité, après on la définira, mais en tout cas dans sa fonction, une modalité de transmission des mythes. Hein. C'est-à-dire c'est en référence à un mythe. Et pourquoi c'est important ? C'est parce que le mythe, c'est rien d'autre que l'ensemble des croyances partagées par un certain nombre de personnes qui va faire groupe. C'est-à-dire qu'effectivement, en partageant un rituel et en ayant une pratique d'un comportement ritualisé, je vais en même temps transmettre souvent de génération en génération, mon appartenance à un groupe construit dont des limites sont celles justement de partager un certain nombre de croyances qui vont donc se construire autour d'un mythe qui est, de ce point de vue-là, le mythe fondateur et organisateur du groupe. C'est l'ensemble de cet espace-là qui construit l'identité d'appartenance, qui fait que j'en fais partie. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ça crée une identité avec des rapports d'inclusion, d'exclusion, surtout des rapports de contenance. C'est-à-dire que la dimension identitaire, essentiellement, est à penser en tant qu'un contenant identitaire.
Une notion de rite qu'on apprécie essentiellement sous sa dimension de répétition, pour prolonger ce que vous disiez à propos du lien avec la tradition, avec le groupe, avec les autres, avec le passé, avec la transmission. Le rite, c'est d'abord la répétition de quelque chose. Est-ce que ça a à voir avec cette idée de ritournelle ?
Alors, ritournelle, c'est un registre un petit peu différent. Hein. Lorsque vous pensez à parler de ritournelle, moi, ça me fait penser à un ami actuellement décédé qui en parlait beaucoup, qui était Félix Guattari. Je vais surtout.
Ben, je pensais à ça. Hein, oui.
D'accord. Donc effectivement, donc on a ça comme écho, toute sa dimension qui a une cohérence interne à travers sa pensée qui elle-même est rhizomatique pour revenir avec ses concepts. Je différencie, à la différence peut-être de ce que je peux lire par ailleurs, le rituel et le rite. C'est-à-dire que le rituel, c'est un ensemble de comportements répétés, stéréotypés, dans un ordre donné, avec une gestuelle, mais qui elle-même fait référence à un rite. Hein. Et le rite est l'ensemble de ces rituels qui prend sens en tant qu'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de rituels, mais l'ensemble fait partie de ce rite. Et ce rite, par rapport à ce que je vous disais lui-même, il a cette cohérence en tant qu'assurant la transmission intragroupale et intergénérationnelle et transgénérationnelle du mythe, c'est-à-dire de l'ensemble des croyances. Et là, on fait le tour et on construit l'identité à travers cette dimension du rituel.
Cécile Jouclard.
Alors, un rituel, j'ai envie de dire, c'est quelque chose évidemment de répétitif. Et pourquoi on fait ce ou ces gestes-là répétitifs, a priori pour se sécuriser, se rassurer. Hein. Voilà, on va dire ça d'une manière un petit peu générale. Donc il y a les rituels plus individuels, et puis après il y a les rituels collectifs, où là, effectivement, le fait d'être dans un groupe, ça renforce la cohésion et ce sentiment de sécurité. Voilà, et ensuite, bien évidemment, nous avons les rituels religieux, et puis tous les rituels plutôt issus de la vie quotidienne. Voilà, donc je pense que c'est vraiment, au sens large, une façon de se sécuriser par cette répétition des gestes.
De même que les arts ne sont pas étanches entre eux, je pense que les sciences humaines ne le sont pas non plus. Et entre la psychologie et l'anthropologie, il y a peut-être là des éléments de relation.
Oui, tout à fait. Alors sur la question des rituels, moi j'ai trouvé des choses assez intéressantes du côté de René Girard, hein, qui donc en 1978, donc des choses cachées depuis la fondation du Monde, a travaillé cette question-là et a parlé de la fonctionnalité du rite. Voilà, donc ça me semble intéressant. Et il disait donc que c'était une violence simulée pour écarter la violence réelle. Donc la victime était d'abord maléfique, puis elle devenait bénéfique, hein, ce qui est différent de la notion aujourd'hui du bouc émissaire. Et il parlait de l'unité de la communauté, donc ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de se regrouper. Donc pas dans un désir de vengeance, mais plus dans un désir de réconciliation et de purification. Hein. Donc le mécanisme pour lui du rituel n'était pas seulement symbolique, mais bel et bien rationnel. Alors, les interdits, hein, puisque effectivement dans les religions ils sont nombreux, donc que ce soit sexuel, alimentaire. Donc lui, il disait que c'était pour chercher à écarter la crise en prohibant les conduites qui la suscitent. Hein. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant. C'est en fait que les rites s'efforcent de canaliser cette crise dans la bonne direction pour l'amener à résolution, donc le but étant la paix. Et il disait qu'il y avait le même fonctionnement pour les mythes. Et j'ai retrouvé aussi donc chez Roger Caillois, donc là, bien avant, dès 1939, dans L'Homme et le Sacré, qui parlait aussi des rites en tant que purification. Voilà, et je trouve cette notion assez intéressante. Et lui aussi, sur les interdits, finalement, il rejoint aussi René Girard dans le sens où il explique bien que les prohibitions maintiennent l'intégrité et l'ordonnance du monde. Je trouve ça intéressant, cette notion d'ordonnance du monde. Voilà, donc c'est vraiment ce système vraiment de cohésion dans lequel les individus ils trouvent leur compte par une sécurité.
La première approche que l'on a donc du rituel, c'est une contrainte, et même une contrainte violente.
Oui. Oui, le rituel, c'est une contrainte, mais qui peut être facilement acceptée, en fait. Voire même, elle peut tirer de sa valeur, le rituel peut tirer de sa valeur justement parce que y a une contrainte. Alors j'ai retrouvé, c'est Malek Chebel hein, qui dit ça, donc un psychanalyste qui avait écrit en 2002 le sujet en islam, où justement il disait que dans la religion donc islamique, il y aurait environ, hein, c'est un peu flou, mais environ quand même 250 interdits, hein, ce qui paraît énorme. Et il disait que justement, plus il y a cette notion de contrainte, et plus le pratiquant trouve une valeur qu'il n'aurait pas eue justement sans ce sacrifice. Hein? Alors c'est assez paradoxal, mais je trouve ça intéressant. Et il parle de l'UMA, hein, donc la communauté, l'UMA donc amniotique et chaleureuse. Hein, voilà.
Alors c'est curieux parce que là on a une vision de cette communauté assez féminine, maternelle. Oui. Alors ce que vous évoquiez juste avant, cette idée d'une contrainte de l'exercice d'une forme de violence d'autorité, mais qui est en même temps rassurante, c'est plutôt une figure paternelle qu'on associe souvent au divin, notre père.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que cette question du père et de la recherche du père a été abondamment commentée dans les religions. Oui, ce qui est intéressant, c'est de... pour revenir peut-être aussi un petit peu sur la notion d'identité, pour reprendre donc Malek Chebel, qu'est-ce qu'il dit par rapport à cette Uma, et c'est peut-être aussi quand même une petite critique hein, sur cette communauté, que finalement le sujet est clivé, hein, parce que il doit adopter effectivement l'état d'esprit, on va dire, dominant, et finalement lui-même, bah, son libre arbitre est très très limité. Hein. Donc en ce sens, on peut effectivement parler de sujet clivé. Mais c'est vrai que les psychanalystes ont été assez divisés hein, sur la question des religions. Bon, si on prend le point de départ qui est Freud, effectivement, il a été un petit peu dur, hein, puisque il disait que la religion était une emprise totalitaire. Et que l'origine, effectivement, du besoin religieux, et on en revient à la problématique du père, c'était effectivement rechercher la protection du père. Hein. Et pour lui, l'Église, finalement, c'était un petit peu comme l'armée, c'est-à-dire l'illusion d'un chef qui aime ses membres, mais qui exige finalement en retour un renoncement à l'identité. Hein, donc là, on revient également sur ce concept d'identité. Alors, donc il parlait effectivement d'aliénation. Voilà.
Une autre dimension saillante de ce rituel, c'est celui d'articuler un rapport entre le réel et la représentation. Pierre Bengozi.
Oui, d'ailleurs, un certain nombre de spécialistes du travail, même sur la dimension de la communication, par exemple pour Paul Václavic, le rituel serait en fait un processus intermédiaire entre ce qu'il appelait la communication analogique et la communication digitale. Très rapidement, entre celle qui serait plutôt de l'ordre d'une représentation imaginaire, hein, et avec une dimension peut-être émotionnelle et affective, et celle qui serait plutôt codée. Alors, la question que vous posez amène à s'interroger sur la fonction symbolique du rituel. Comment des rituels ont une fonction de structuration symbolique. J'étais amené à travailler par exemple en Guyane, hein, en Guyane française, en tant que psy, à un moment donné où un de mes patients présentait un délire important dans l'hôpital de Cayenne où j'étais. Et comme j'ai une pratique à la fois de psychanalyste individuel, groupal et familial, je me suis dit que ce que je pouvais avoir comme approche de son comportement et ce qui se manifestait du côté des Irans, j'y comprenais rien si je le resituais pas dans son contexte d'appartenance. J'ai invité à rencontrer les gens de référents de cet espace-là et je me suis retrouvé à voir le chef du village et à voir, à partir de ce chef du village, une rencontre qu'on a décidé d'organiser dans l'espace même du village. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il a été dit que ce que je fais justement en cohérence à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je leur demande à eux, mais qu'est-ce qu'il en est pour vous de cette histoire? Quel sens vous donnez-vous à cette histoire? Et non pas moi, comment j'interprète en termes psychiatrie ce comportement? Et ils m'ont dit qu'en fait, c'est une vieille histoire d'arrière-grand-mère qui aurait fauté en ayant été avec des hommes, etc. J'aurais demandé comment ils le savaient. Ils m'ont dit en fait, c'est parce que ce sont des rêves qui ont été portés par des membres de la communauté qui pouvait donner cette lecture. Et j'aurais dit, mais alors dans ces cas-là, quand il y a cette faute, et pour lesquelles effectivement, dans l'explication traditionnelle, le comportement traduisait l'expression de cette faute, j'aurais demandé, comment est-ce que ça se gère? Ils m'ont dit, ben ça se gère normalement par un rituel, c'est-à-dire que la famille au sens famille dans le contexte de la communauté, hein, c'est une famille élargie, fait un certain nombre d'offrandes à l'autre famille qui a été considérée comme un peu victime, etc. Il apparaît que depuis plusieurs générations, ce rituel n'avait pas été fait. Alors j'aurais demandé pourquoi. Bon, ils m'ont expliqué qu'effectivement, c'est une histoire entre guillemets de kudu, donc qui faisait que ça mettait inféodé la famille à une autre, à l'autre famille. Et à ce moment-là, il dit, ben, dans ce cas-là, moi je peux rien faire d'autre, sinon qu'est-ce que vous pouvez faire vous? Alors il dit, ben, on va faire le rituel. Et à ce moment-là, ils ont fait un rituel, donc c'est pas moi qui fais le rituel, évidemment, c'est toute la différence avec l'ethnopsie, etc. C'est qu'en aucun cas, moi je suis le spécialiste, moi je suis celui qui est là et qui questionne la question et la fonction même du rituel dans cet espace-là. Et lorsque qu'il a été fait un rituel, il y avait une histoire d'œufs cassés, pas cassés, etc. Et le sorcier prenant l'œuf m'explique, si l'œuf est cassé, ça c'est bien, si l'œuf est pas cassé, c'est très dangereux et la personne peut mourir. Après coup, en retravaillant cette histoire, j'ai travaillé avec Carl Schipper, un anthropologue, enfin très très important, et j'avais un certain nombre de lectures explicatives, des symboles, etc. Et ce qui est très très intéressant, c'est de voir à quel point c'est un leurre que de transformer la lecture de ces rituels dans une espèce de symbolique qui serait la nôtre. Et c'était très important plutôt de voir comment la dynamique même du rituel avait une fonction organisatrice et structurante pour ce jeune, en tant que jeune représentant une communauté elle-même en pleine transformation.
Un domaine dans lequel on va faire se rejoindre le sacré et le profane, c'est ce que l'on appelle le rite de passage.
Oui, alors rite de passage, ou dit aussi rite initiatique.
Cécile Jouclard.
Là, je pense que c'est effectivement quelque chose d'intéressant qui permet de surmonter les difficultés. Hein. Par exemple, bon, les rites initiatiques pour les adolescents. L'adolescent étant en quête de reconnaissance et d'idéal, effectivement, il peut trouver à travers ce rite, ce passage, quelque chose d'assez fondateur. Et là, je reviens encore à certains psychanalystes aujourd'hui, comme par exemple Julia Kristeva, qui parle beaucoup du besoin de croire, et que justement ce besoin aide à surmonter les difficultés. Donc dans notre société où effectivement les rites initiatiques, on va dire, sont moins nombreux, ou alors prennent vraiment des formes peut-être vraiment particulières, je pense par exemple au bizutage, hein, pourquoi pas, on peut l'associer à une forme de rituel. Voilà, donc il y a cet aspect-là de surmonter les difficultés, de surmonter l'épreuve et de croire à quelque chose qui de porteur finalement.
De tous les animaux présents sur cette planète, l'homme est celui qui a le rapport le plus complexe au temps. Et peut-être que l'accomplissement de ces rituels, c'est aussi une manière de nous situer dans le temps, d'accomplir des actions qui ont déjà été accomplies, donc de jeter un regard vers le passé, et en même temps d'attribuer à ces actions, à ces rituels, un rôle à l'égard de l'avenir. Si j'accomplis ce rituel, mon destin sera plus favorable. Le rituel, c'est donc aussi une manière de mieux nous situer dans l'échelle du temps.
Oui, je pense qu'effectivement, ça aide à se positionner. Maintenant, est-ce que c'est le rituel vraiment lui-même qui aide à se positionner ou peut-être plus le message d'amour et d'espoir qui enveloppe finalement ce rituel. Par exemple, ici, au cabinet, je peux avoir des patients qui traversent des phases où ils se sentent déprimés. Et même s'ils ne sont pas pratiquants, dans ces moments-là, ils peuvent trouver, alors j'ai envie de dire plus auprès de leur communauté hein, qu'auprès de la religion, ils peuvent trouver des signes porteurs d'espoir, et tout en n'étant pas pratiquant. Hein, c'est là où il y a quand même un paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tellement la question de savoir si on croit ou si on ne croit pas, c'est plus la question de se reconnaître dans une tradition, une communauté, une histoire, voire un livre.
Mais il y aurait peut-être aussi une sorte de transaction dans cet acte du rituel. Quelque part, c'est une manière de s'acheter les bonnes grâces du destin. Si j'accomplis ce rituel, tout va bien.
Oui, c'est vrai. Oui, je pense que pour des gens qui ont peur aujourd'hui dans notre société, c'est effectivement une façon. Oui, je peux m'attirer effectivement ces bonnes grâces. En même temps, est-ce qu'il y a vraiment de la conviction ?
D'une certaine manière, c'est un peu un domaine dans lequel les croyances et ceux qui les administrent, et puis la psychologie et ceux qui la pratiquent sont un peu en concurrence, non ?
Oui, on a souvent dit ça, que les psychanalystes étaient, enfin psychologues, psychiatres, étaient un petit peu les nouveaux curés.
Comment est-ce que vous situez la psychanalyse dans cette thérapeutique de l'âme ?
Alors, écoutez, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Hein, voilà, ça me paraît vraiment un point fondamental. C'est-à-dire que quand même, les patients viennent dans un lieu sécurisé où ils peuvent tout dire. Et c'est quand même un espace de liberté incroyable. Et aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça, hein, des espaces de liberté dans la société.
Est-ce qu'on accomplit des rituels dans un cabinet de psychanalyse ?
Oui.
Le canapé.
Voilà, qu'on appelle divan, hein, le divan. Et puis, oui, bien déjà le rythme hein, des séances, ça c'est important. Et ça contribue effectivement à un cadre sécurisant. Voilà. Hein.
Tu es mon amour, et je suis ton amour, et nous avons beaucoup, 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 et nous ne sommes pas bloqués par l'amour, ah ça non, nous ne sommes pas bloqués par l'amour, ça non, ça nous, c'est nous l'amour, c'est notre amour, comme un petit œuf, et pan, pan, petit œuf, un petit œuf, pan, comme un petit œuf, et nous l'aimons, pan, et nous l'aimons, et nous avons notre amour, et nous avons notre amour, et j'ai le mien, et tu as le tien, pan, c'est notre pan à nous, c'est l'amour, c'est un œuf, et tout de suite, et nous le prenons, et pan, 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 tu es mon amour, tu es mon amour, tu es mon amour, tu es mon amour, et je suis ton amour, et nous sommes nos amours, et tu es mon amour, et nous avons, et vous avez, et tu as, tu es, tu es toi, tu es mon amour, tu es mon amour, et nous avons l'amour, et c'est comme un petit œuf, et nous le prenons, et pan, pan, pan. pan, et nous le prenons, quitte à neuf, et tout de suite, nous le prenons et pan.
De l'ordre au désordre, il n'y a qu'un pas. Votre pratique clinique vous amène, j'imagine, sans doute à résoudre des problèmes de psychopathologie, de rites qui prennent une part un peu excessive dans la vie des gens. On parle beaucoup de troubles obsessionnels du comportement, de névroses obsessionnelles. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, une pratique rituelique tout à fait normale au plan personnel, au plan social, dérape dans quelque chose qui devient une souffrance pour l'individu? Pierre Bengozi.
On est, à mon sens, dans un registre radicalement différent. C'est-à-dire que je pense que ce qu'il en est, par exemple, des comportements compulsifs d'allure rituelle, par justement le côté répété, stéréotypé, de comportements obsessionnels de vérification d'eau, de voir si la porte est bien fermée, robinet bien fermé, etc., qui sont classiques dans certains comportements obsessionnels, qu'on appelle de plus en plus du côté des TOC, des choses comme ça. Ça, pour moi, on n'est plus dans la même dimension que celle du rite. C'est-à-dire, pourquoi on n'est plus dans le rite? Parce que justement, on est en dehors d'un système de cohérence et de croyance qui fait sens par rapport à un mythe organisateur.
Ce qui manque, c'est la dimension collective ?
Absolument. C'est-à-dire qu'alors à ce moment-là, on est plus dans quelque chose de l'ordre d'une déritualisation. C'est-à-dire que, au contraire, c'est des espèces de néo-rites. Et ça m'amène alors à passer de la psychopathologie à toute autre chose, mais qui en fait écho. C'est l'utilisation des comportements ritualisés, d'allures de rites, mais qui pour moi sont des Canada Dry de rituels, c'est-à-dire les rituels, les Canada Dry qu'on a dans les histoires de sectes. L'ensemble des sectes, utilisées dans toutes les sectes, vous verrez qu'il y a une force, un force décorum de quelque chose qui apparaît comme étant du rite, hein, mais qui en réalité n'a rien d'autre qu'une fonction qui est justement d'aliéner le sujet à une appartenance clanique, à celui qui se présente comme étant l'organisateur fondateur, c'est-à-dire qui se présente et qui se chosifie à travers le gourou de la secte, comme étant, comme s'il était justement la référence symbolique de la filiation et de l'ordre symbolique que représente normalement le mythe organisateur. Et là, je crois que justement, ça nous montre à quel point il faut faire attention à différencier ce qu'il en est des comportements ritualisés, etc., de la fonction et de l'économie psychique, organisatrice et symbolique et structurante que représentent les mythes, que représentent les rites, les rituels, dans ce qu'ils peuvent avoir, justement, de porter une cohérence, la première cohérence essentielle étant justement d'accompagner la dialectique de la permanence et du changement.
Tu es mon amour, tu es mon amour, tu es mon amour, tu es mon amour, je suis ton amour, et nous sommes nos amours, et nous avons nos amours, et tu es mon amour, tu es mon amour, et nous avons, et vous avez, et tu as, tu as.
Bon, oui, c'est vrai que on peut se poser la question sur l'obsession. On peut aussi peut-être faire un lien avec les addictions. Hein, on en parle beaucoup aussi. Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui se passe? Bon, si on revient vraiment à la définition, hein, telle que Freud l'avait posée de la névrose obsessionnelle. Bon, en résumé, qui est un conflit psychique entre le moi et un surmoi. moi cruel. Voilà. Donc la personne se retrouve dans l'impossibilité finalement d'agir. Il y a une inhibition à la fois de la pensée et de l'action, avec tout ce qui est de l'ordre de la rumination mentale, du doute, des hésitations, des scrupules. Tout ça se traduit par des idées et des actes obsédants. Maintenant, il faut trouver le sens, quoi. Qu'est-ce que cela exprime ? Quel est le sens de tout ça ? Moi, je remarque aujourd'hui dans la clinique qu'il y a quand même plusieurs demandes de consultation par rapport à ce qu'on appelle la crise d'angoisse. Donc ça, je trouve que c'est une question aujourd'hui assez centrale, qui apparemment serait plus ressentie par des femmes que par des hommes. Bon, mais là encore, pas de généralité, mais c'est ce que je remarque au cabinet. Donc, des jeunes femmes qui sont par ailleurs bien intégrées dans la vie, qui ont un travail, qui ne sont pas en situation de précarité sociale, qui ne sont pas seules non plus, qui sont d'ailleurs plutôt bien de leur personne. Enfin, vraiment, a priori, pas de signe. Et pourtant, ces personnes-là, se retrouvent prises dans cette crise d'angoisse qui se traduit par un isolement, un enfermement chez elles et l'incapacité à sortir, déjà ça c'est un point important, à sortir, à soutenir le regard des passants dans la rue et à accomplir tous les actes du quotidien, tous les actes extérieurs du quotidien, des choses aussi simples que d'aller chercher le pain par exemple, devient compliqué. Alors moi je me situe par rapport à ça d'une manière assez pragmatique. Et donc, moi, j'ai plus un travail avec eux de dire, à un moment donné, on n'a pas le choix, on ne peut pas rester dans le fantasme, il faut se confronter à la réalité. Donc, progressivement, par étapes, effectivement, sortir de sa bulle, sortir de son appartement et essayer de trouver sa place dans la société. Donc, par rapport, si on voudrait refaire un lien avec les rituels, peut-être dire qu'effectivement, à un moment, on ne peut pas quand même échapper à la réalité. Elle est ce qu'elle est et il faut pouvoir l'assumer. Alors si les rituels aident dans ce sens, pourquoi pas? Mais à partir du moment où ils deviennent obsédants et ça fait l'effet contraire, donc non. Mais après, vous avez aussi, je pense, des individus qui ont moins besoin de rituels parce qu'ils ont intériorisé finalement une espèce de force. Alors bon, on peut l'appeler Dieu, mais c'est quelque chose de plus intériorisé. Boris Cyrulnik en parle, et d'ailleurs il dit qu'en vieillissant, on a moins besoin de rituels. On a surtout besoin de croire, peut-être plus qu'en Dieu, on a besoin de croire en l'homme. Donc certaines personnes, effectivement, n'ont pas besoin de rituels parce que elles ont la possibilité de se représenter, alors une force ou un Dieu personnel et bienveillant qu'elles ont en elles et qu'elles sollicitent dans les moments difficiles sans avoir recours au rituel. Donc ça peut être une présence intérieure mais qui n'est pas symbolisée par des actes extérieurs, donc par des rituels.
Vous écoutiez Rituel au quotidien, dans la thématique Ma foi, avec Cécile Jouclard, psychanalyste, et Pierre Benghouzi, psychiatre. Prochain rendez-vous dans cette thématique, demain à 9h30, chronique mythologique.
et à 18h, des enfants de l'école Anatole France à Montpellier, philosophes à propos de Dieu. Vous entendez des voix ? Non, ce n'est pas un miracle, c'est juste la radio. Restez à l'écoute sur les 3-8.